Oh, Carson, is that you? Y'a quelqu'un? Merci à vous d'être venu. Ainsi donc, tous ces imbéciles qui proclament Marx est mort n'ont pas réussi à vous dissuader. Certes, je suis, et je ne suis pas. Ah, pour vous, c'est de la dialectique. Vous demandez peut-être comment je suis arrivé jusqu'ici. Les transports, en commun. En réalité, je ne m'attendais pas à revenir ici. Je voulais retourner à Soho, à Londres, là où je vivais. Mais un cafouillage bureaucratique, et me voilà. À Soho. Mais à New York! Oui, bon, d'accord, j'ai toujours voulu visiter New York. Pourquoi je suis revenu? Pour laver mon nom. J'ai lu toutes vos gazettes. Elles proclament toutes que mes idées sont mortes. Mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau là-dedans? Rien! C'est clou! Le répète depuis plus d'un siècle! Vous êtes déjà demandé pourquoi il était nécessaire de me déclarer mort. Encore et encore! Bon, bah, j'en ai jusque-là. J'ai demandé le droit de revenir. Mais comme je vous l'ai dit, là-haut, c'est une bureaucratie. Il y a des règles. Là-bas, il est permis de lire et même de regarder, mais pas de voyager. Je protestais, évidemment. J'ai même eu quelques partisans. Socrate leur a dit, une vie sans voyage ne vaut pas la peine d'être vécue. Grandi a jeûné. Mother Jones a menacé de monter un piquet de grève. Mark Twain m'a défendu de son étrange manière. Et Bouddha a entonné son OM. Mais tous les autres ont gardé le silence. Mon Dieu! Dans l'état où ils sont, qu'est-ce qu'ils ont à perdre? Eric, même là-bas, j'ai une réputation d'agitateur. Mais même là-haut, les manifestations, ça finit par marcher. La preuve, ils ont fini par dire « Ok, you can go away. You have approximately 1 hour to say what you want. But remember, no agit-prop. »
Ils croient sincèrement à la liberté d'expression.
Certaines limites. Ce sont des libéraux. Vous pouvez diffuser l'information. Marx est de retour. Oui, bah, pas pour longtemps, je sais. Mais avant tout, sachez bien une chose. Je ne suis pas marxiste. Ha ! La fois où j'ai dit ça à Piper, il a failli en crever. Il est indispensable. Je ne peux pas de Piper. À Londres, vous savez, nous vivions à Londres avec Jenny, moi, les deux enfants, plus deux chiens, trois chats et quelques oiseaux, c'est-à-dire plutôt les trois, dans un petit appartement donnant sur Dean Street, pas très loin de là où débouchaient les égouts. Vous étiez arrivés là parce que vous avez été expulsés du continent, expulsés de la Vénanie, ouais, de l'endroit où je suis né. C'est que j'avais fait des choses dangereuses. Je dirigeais un journal, la Rheinische Zeitung. Pas vraiment révolutionnaire, hein, mais il semble que l'action la plus révolutionnaire dans laquelle on peut s'engager, c'est de dire la vérité. En Rhénanie, la police avait arrêté de pauvres gens qui ramassaient du bois de chauffage sur les propriétés des riches. J'ai écrit un édito pour protester. Ils ont essayé de le censurer. Alors j'ai écrit un autre édito affirmant que la liberté de la presse n'existait pas en Allemagne. Ils ont décidé de prouver que j'avais raison en interdisant le journal. C'est seulement alors que nous nous sommes radicalisés. Toujours la même histoire, hein. La dernière édition de la Rheinische était barrée d'un énorme titre en lettres rouges, révolte. Ce qui chagrina les autorités. Ils en donnèrent mon bannissement. Je suis donc parti pour Paris. Les exilés vont-ils jamais ailleurs? Vous pouvez-vous rester assis toute une nuit dans un café à raconter des mensonges sur le révolutionnaire que vous avez été dans votre pays, que vous n'avez pas été dans votre pays? Si vous devez être exilé, soyez exilé à Paris. Paris. raréfie notre lune de miel. Jenny avait déniché un minuscule appartement dans le quartier latin des Mois de Paradis. Mais de la police allemande à la police française, il s'était passé le mot. Il semble que la police développe une conscience internationaliste bien avant les ouvriers. Et donc, j'ai été expulsé de Paris. Nous sommes allés en Belgique, expulsés également. Finalement, nous sommes arrivés à Londres, où débarquent les réfugiés du monde entier. Les Britanniques sont remarquables pour leur tolérance et insupportables pour la vanité qu'ils en tirent. Le médecin, on prédit que j'allais peut-être tout seul d'ici quelques semaines. C'était en 1858. Mais j'étais sur le point de vous parler de Piper. Vous savez, chez nous à Londres, les réfugiés politiques du monde entier entraient et sortaient à tout bout de champ. Piper était l'un d'eux. Il me tournait autour comme un bourdon. C'était un flatteur, un flagorneur. Il avait pour habitude de se poster à 20 cm de moi pour être sûr que je ne m'échappe pas. Et il me citait mes propres textes. Chaque fois que je vais lui dire, Piper, s'il te plaît, arrête de me citer. Il avait l'audace d'annoncer, croyant que ça me ferait plaisir, qu'il allait traduire Das Kapital en anglais. L'animal pouvait à peine prononcer deux phrases en anglais sans les massacrer. L'anglais, c'est une langue merveilleuse. C'est la langue de Shakespeare. Mais si Shakespeare avait entendu Piper prononcer une seule phrase en anglais, il aurait pris du poison. Mais Jenny avait voulu de la compassion. Il aimait bien la dîner. Il l'invitait à dîner avec nous en soirée. Un soir, Piper est arrivé en annonçant la création de la Société marxiste de Londres. Société marxiste. Qu'est-ce que c'est que ça? Nous nous réunissons chaque semaine pour étudier un de vos textes. Nous le lisons à haute voix, l'analysons phrase par phrase. Voilà pourquoi nous nous sommes intitulés marxistes. Nous croyons sincèrement et profondément à tout ce que vous écrivez. Sincèrement et profondément. Oui, Herr Dr. Marx. Il m'appelait toujours Herr Dr. Marx. Et nous serions heureux si vous preniez la parole à la prochaine réunion de notre société marxiste. Ah, mais je ne peux pas faire une chose pareille. Oh, et pourquoi? Parce que je ne suis pas marxiste. Passons encore son mauvais anglais. Le mien n'était pas parfait, mais c'était sa manière de penser. C'était comme un satellite en orbite autour de mes mots et qui les diffusait à travers le monde, mais en les déformant et qui ensuite défendait cette déformation comme un fanatique. Alors je voulais dire, Jenny, tu sais ce que je crains le plus? Il m'a répondu que la révolution prolétarienne n'ait jamais lieu. Non! Quelle est lieu? Les mettre au pouvoir, des types comme Piper, flatteurs quand ils sont dominés, notamment les tyranniques quand ils sont au pouvoir, des dogmatiques, ils parleront au nom du prolétariat, ils interprétent les pensées pour le monde entier, ils font une nouvelle église, un nouveau clergé, avec des excommunications, des mises à l'index, des pelotons d'exécution et des inquisitions. Et ça, ce sera fait au nom du communisme, l'effaçant pour des années de l'idée de la liberté. Diffusant le monde en empire communiste et en empire capitaliste. Et vous poussiez notre rêve merveilleux. Vous faites une révolution. Peut-être deux, voire trois. Vous le préparez. Voilà ce qui me fait peur. Jusqu'au British Museum et sa magnifique bibliothèque. Et là, travailler jusqu'à ce que la nuit tombe. Lire de l'économie politique. Y a-t-il quelque chose de plus ennuyeux que lire de l'économie politique?
Oui!
Écrire de l'économie politique! Puis, pour entrer à la maison par les rues sombres, au son de marchands de quatre saisons, criant le prix de leurs denrées, en entendant les vétérans à la guerre crevée, certains aveugles, d'autres sans jambes, et quelques peines dans un air délétère. L'odeur de la pauvreté, londonienne, quoi. Pour tenter de minimiser la portée de Das Kapital, mes critiques diront ce qu'ils disent toujours des auteurs radicaux. Il a dû vivre quelque expérience personnelle affreuse. D'accord! Si ça vous plaît d'assister là-dessus, le trajet de retour à Traverso alimenta la rage qu'il y a dans Das Kapital. Je vous entends ici. Ouais, bon, c'était comme ça à l'époque, il y a un siècle. À l'époque, vraiment. Pour venir ici aujourd'hui, j'ai marché dans les rues de votre ville, envahi d'ordures, exhalant un air fétide, enjambant le corps d'hommes et de femmes endormis sur le trottoir, blottis les uns contre les autres pour lutter contre le froid. Et au lieu d'entendre une rengaine fredonnée par un gosse, j'ai entendu une voix. Des machines volantes et mille parfums pour sentir bon. Et les gens qui dorment dans la rue! Un rapport officiel. Le produit national brut des États-Unis, ça pourrait être brut, s'est élevé l'an passé à 700 milliards de dollars. Wow, très impressionnant. Mais vous avez déjà demandé où ça se trouve, qui en profite et qui n'en profite pas. Moins de 500 personnes contrôlent à elles seules 2000 milliards en actifs commerciaux. Ces gens sont-ils plus nobles? Travaillent-ils plus durement? Sont-ils plus précieux pour une société qu'une mère de famille avec trois enfants à nourrir en hiver et sans rien pour payer un autre de chauffage? Les cheveux écrits depuis 150 ans. Que le capitalisme est à croître la richesse dans des proportions énormes, et que cette richesse serait ensuite répartie dans des mains de moins en moins nombreuses. La gigantesque fusion de la Chase Manhattan Bank avec la Chemical Manhattan Bank. 12 000 travailleurs vont perdre leur emploi. Action en hausse. Smith, le village déserté, le pays se porte bien mal, en proie à des maux pressants, celui où s'accumulent les richesses et dépérissent les hommes. Dépérissent, oui, c'est ce que j'ai vu en marchant dans les rues de votre ville ce matin. Des maisons qui pourrissent, des écoles qui pourrissent, des êtres humains qui pourrissent. Et puis j'ai marché un peu plus loin, et tout à coup je me suis trouvé entouré d'hommes. Manifestement très riche, de femmes couvertes de fourrures et de bijoux. Tout à coup, une sirène s'est mise à hurler. Oh, un délit avait-il lieu dans le coin? Un crime était-il commis? Quelqu'un essayait-il de reprendre illégalement une part de ce produit intérieur brut à quelqu'un qui l'avait légalement volé? Les merveilles du système de marché. Les hommes et les femmes réduits à de la marchandise et leur vie sous le contrôle de la super marchandise. L'argent! La commission n'apprécie pas. Dans le petit appartement de Dean Street, Jenny faisait réchauffer de la soupe. Et bouillir les pommes de terre. Heureusement, nous avions pain frais notre ami boulanger au bas de la rue. Et le soir, nous étions à table pour manger et discuter des derniers événements du jour. La dernière guerre du moment, la lutte de libération d'Irlande, l'imbécilité des gouvernements, la ruine opposition qui se contentait de piaillements et de glapissements, la lâcheté de la presse, toutes choses qui sont bien différentes aujourd'hui, je le suppose. Après le dîner, on débarrassait la table, je mettais au travail une bière et un cigare à portée de la main. C'est que je travaillais jusqu'à 3 ou 4 heures du matin. Les livres empilés d'un côté, les rapports parlementaires de l'autre. En face, au bout de la table, j'écrivais. Pour retranscrire. J'écrivais si mal qu'elle devait copier chacun de mes mots. Vous imaginez, tâche plus héroïque. De temps à autre, une crise. Non, pas une crise mondiale. Un livre qui me manquait. Un jour, j'ai demandé à Jenny, « Mon Ricardo, où as-tu mis mon Ricardo ?» Qui veut dire « principe d'économie politique ». Elle avait dû penser que j'en avais fini avec lui. Il avait mis au monde piété. C'est pourquoi j'ai perdu mon sang-froid. « Mon Ricardo, tu as mis mon Ricardo au plus haut du tal !» La semaine dernière, ma compagnie engage la bague que ma mère m'avait donnée. Toujours ainsi, tout passait au monde vite. Plus particulièrement les cadeaux de famille de Jenny, mais quand elle n'avait plus, c'était un vêtement. J'ai passé tout un hiver, vous connaissez les hivers londoniens, sans mon manteau. Une fois que je marchais dans la rue, j'ai commencé à sentir que mes pieds gelaient sur la neige. Je me suis aperçu que je n'avais pas de chaussures. On les avait mises au clou la veille. Quand As Capital a été publié, on a fêté ça. Mais Engels a d'abord mis nous filer un peu de pognon pour qu'on puisse cotiser chez le traiteur, les nappes, la vaisselle et les ustensiles. Engels. Un saint. Ouais, il n'y a pas d'autre mot. Chaque fois qu'on nous coupait l'eau et les gaz, que nous étions dans le noir et que notre morale était au plus bas, Engels payait un autre. Son père avait des usines à Manchester. Ouais, c'est le capitalisme qui nous a sauvés. Mais Engels ne comprenait pas toujours nos besoins. On pouvait ne pas avoir d'argent pour manger, mais lui, il pouvait nous envoyer des caisses de vin. Une année qu'on n'avait pas d'argent pour s'acheter un arbre de Noël, il a débarqué avec 6 bouteilles de champagne. Alors on a imaginé un arbre, on a fait un cercle autour, et on a bu le champagne en chantant des chansons. Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure. Oui, j'entendais ici mes camarades révolutionnaires. Marx, Laté, avec un arbre de Noël. C'est vrai que j'ai écrit que la religion était l'opium du peuple, mais personne n'a jamais tenu compte de tout le passage. Écoutez, la religion est le soupir de la créature accablée par le malheur. L'âme d'un monde sans cœur, comme elle est l'esprit d'une époque sans esprit. C'est l'opium du peuple. Évidemment que l'opium, c'est pas la solution, mais dans certains cas, il peut servir à soulager la souffrance, et ça je le sais, hein, à cause de mes fumons. Et le monde n'a-t-il pas lui-même ces terribles éruptions de fumons? Mon sens vrai, à Jenny. Comment elle a empâté tous nos biens pour traverser la Manche avec nos deux enfants, Jenny, Chen et Laura. Puis comment elle a couché à 3 reprises dans ce minuscule appartement glacial de Mansourdine Street. Comment elle a bercé ses bébés. Comment elle essaie de les réchauffer pour les voir mourir, en un. Guido n'avait même pas commencé à marcher. Francesca, elle avait à peine atteint 1 an. J'ai dû emprunter 3 livres sterling pour payer son cercueil. Moche, Il a tenu jusqu'à 8 ans, mais dès le début, il y avait quelque chose qui clochait. Il avait une bonne tête, mais le reste du corps n'a jamais suivi. La nuit de sa mort, on s'est tous couchés par terre autour de lui, jusqu'au matin. Quand Eleanor est née, on était horrifiés. Mais c'était une petite chose coriace. Vous pouvez être heureux qu'elle ait eu deux sœurs aînées. Jenichen et Laura, elles avaient tout juste survécu. Jenichen était née à Paris. Paris, c'est une ville merveilleuse pour les amoureux, pas pour les enfants. Sans doute quelque chose à voir avec l'air. Laura, elle, était née à Bruxelles. Personne ne devrait jamais naître à Bruxelles. Allons, nous vivions sans sous, mais on pique-niquait tous les dimanches. On marchait dans la campagne de Rémi, Jenny et moi, les enfants et les jeunes. Oui, je vous parlerai de l'Engel. L'Engel avait pour habitude de nous faire du rôti de veau. On avait du thé, du pain aux fruits, du fromage et de la bière. Mais alors, était la plus petite, mais elle faisait de la bière. Alors, on peut ne pas avoir d'argent, mais les enfants, ils ont quand même besoin de distraction. Une fois, je les ai envoyés en France, sous la côte atlantique, avec l'argent du loyer. Et une autre fois, comme les filles aimaient beaucoup la musique, je leur ai acheté un piano, avec l'argent des courses. Eleanor était une enfant bizarre, étrange. Parfois, elle m'avait dit à Jenny, il me semble que Eleanor est un peu étonnante. Et elle me répondait, tu n'aurais quand même pas voulu que les enfants de Karl Marx soient normaux. Mon père n'est pas censé préférer l'un de ses enfants. Mais Eleanor, Eleanor était la plus petite, mais la plus brillante. Imaginez, une révolutionnaire de 8 ans. C'est l'âge qu'elle avait en 1863. La Pologne s'était révoltée contre l'autorité de la Russie. Et Tussi, oui, on l'appelait Tussi, parce que Tussle, en anglais, ça veut dire bagarre, prise de bec. Tussi avait écrit à Engels pour saluer ses vaillants petits compagnons de Pologne, comme elle les appelait. En avant, elle a écrit en Amérique au président Lincoln pour lui expliquer comment gagner la guerre contre les États confédérés. Et après, elle fumait. Elle buvait du vin. Mais la Russie, c'était une môme. Je lui ai habillé ses poupées en sirotant un verre de vin. Et à 10 ans, elle jouait aux échecs contre moi, hein. C'était pas facile de la battre. À 15, elle a piqué une crise contre l'observation du jour du Seigneur. Aucune activité n'était légalement permise ce jour-là. Alors, elle organisa les soirées dominicales pour le peuple à St. Martin's Hall. Elle invitait des musiciens pour jouer Mozart, Handel, Beethoven. Ça le comble. 2000 personnes. C'était illégal. Personne ne fut acquis. Prenez-en de la graine. Vous voulez violer la loi? Faites-le! Mais avec 2000 personnes. Et Mozart. J'avais pour habitude de lire à haute voix Eschyle, Dante, Shakespeare pour elle et ses sœurs, elles adoraient ça. Sa chambre, c'était un musée consacré à Shakespeare. Elle avait appris par cœur Roméo et Juliette, mais elle insistait encore et encore pour que je lise toujours les vers de Roméo quand il voit Juliette pour la première fois. Car l'éclat de sa joue ferait honte aux étoiles comme le jour à une lampe. Tandis que ses yeux au ciel répandraient à travers la région aérienne un si vif éclat que les oiseaux chanteraient, croyant la nuit terminée. Eleanor n'était pas facile à vivre. Ça non. Savez-vous combien il est déconcertant de voir votre propre fille vous trouver une faille dans un de vos raisonnements et se disputer avec moi à propos de mes propres textes? Par exemple, mon essai sur la question juive, pas facile à comprendre, hein, je l'admets. Eh bien, elle aime. Tout de suite, elle m'a provoqué. Pourquoi as-tu érigé les juifs en représentant du capitalisme? Ils ne sont pas les seuls à être frappés du virus, du commerce et de la cupidité. Je t'en ai dit. Je n'ai pas érigé les juifs en quoi que ce soit. Je les ai simplement utilisés comme exemple frappant. La réponse consiste à arborer les points juifs. Je suis juif, déclara-t-elle, puisque je pouvais m'étorquer à ça. Hein. Et comme je haussais les épaules, elle me dit ça, c'est un geste très vif. Oh, dans ce cas-là, qu'est-ce que je pouvais être agaçante? Vous l'avez appris que mon père s'était converti au christianisme. C'est pas facile d'être juif en Allemagne. Est-il d'être un pays au monde où il est facile d'être juif? Vous savez qu'il m'avait fait baptiser à l'âge de 8 ans. Et ça l'intriguait. Alors un jour, on m'a demandé Mort. Oui, dans la famille, tout le monde m'appelait Mort à cause de mon père Matt. Mort, je sais que tu étais baptisé. Mais tu as bien d'abord été circoncis. Cet môme n'avait vraiment honte de rien. Arrangez-vous bien. À côté de cette étoile juive, elle a arboré un crucifix. Non que ce soit très peu une frise du christianisme, mais de la lutte de l'Irlande contre l'Angleterre. Elle s'informait sur les lignes irlandaises auprès de Lizzie Burns, l'amante d'Engels. Lizzie. Oh, une petite ouvrière de filature qui ne savait pas lire. Engels lui parlait 9 langues. Vous pourriez croire qu'ils avaient des difficultés de communication? Non. Ils s'aimaient. Lizzie militait pour la cause irlandaise. Et quand Lucie lui rendait visite, elle s'asseyait toutes les deux par terre, buvait du vin, et chantait des chansons irlandaises jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Oui. Il y a eu cette nuit horrible. Le gouvernement britannique a fait pendre deux jeunes Irlandais en plein saut au lieu d'une foule d'ivrognes qui applaudissaient. Ces Anglais, si raffinés, avec leurs tasses de thé et leurs pendaisons publiques. J'ai cru comprendre qu'aujourd'hui vous ne pendez plus personne. Vous contentez de les gazer, de leur injecter du poison dans les veines, ou de les brûler à l'électricité jusqu'à ce que mort s'en suive. Ah, beaucoup plus civilisé. Ouais. Ils ont pendu deux jeunes Irlandais qui ne faisaient rien d'autre que réclamer la liberté pour leur pays. Et tu s'y pleuras. Pleuras. Encore. Et encore. J'essaie de l'expliquer. Tu sais, tu ne devrais pas te préoccuper si tôt des horreurs du monde. Tu as 15 ans. Justement, moi, je n'ai plus 13 ans, ni même 14. J'ai 15 ans. Ça, rien, elle les avait, ces 15 ans. Elle commençait à s'enticher pour un nom de tous les bélards qui passaient par notre appartement. Je peux vous en dresser la liste. Jusqu'à la fin de ses jours, Eleanor fut aussi lucide en politique qu'idiote en amour. Qu'elle est tombée amoureuse folle d'un héros de la commune de Paris, Lissard Garay. Bon, lui, au moins, c'était un Français. Oh, comme une jeune chaîne, il était anglais. Les Anglais sont comme leur cuisine. Faut-il en dire davantage? Ah! Il y avait aussi la fargue, l'amant de Laura. L'étalage public de leur poisson était absurde. Ils lui mettaient la main au cul, devant tout le monde, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Et j'ai dit qui essaie d'excuser. Ce sont ses origines créoles. Tu sais bien que ses parents sont venus de Cuba à Paris. Comme si à Cuba, tout le monde se promenait avec la main au cul de quelqu'un. Je lui essaie toujours de me calmer. Elle pouvait y arriver. Moi. Mais par mes oncles. Elle a déjà eu des oncles. Une maladie odieuse. Et souvent que mon pourri la vie. Il a encouragé certains à tout expliquer à cause de Marx en rage contre le capitalisme à cause de ses furoncles. Ah, les imbéciles, ils vont s'en sortir comment avec les autres révolutionnaires qui n'ont pas de furoncles. Bon, je trouve toujours une explication. Hein. Celui-là, il était parti par son père. Cet autre, sa mère, l'a suscité jusqu'à l'âge de ses 10 ans. Et celui-là, on ne lui a même pas appris à faire sa toilette. Toutes sortes d'explications. Sauf la plus évitable, évidente, le capitalisme, par sa nature, ses atteintes à l'esprit humain, engendre la révolte. capitalisme d'aujourd'hui serait moins violent que celui de mon temps.
Vraiment?
Il y a 200 ou 300, c'est écrit dans la gazette. Les patrons d'une usine de poulet en Caroline du Nord ont fait fermer à double tour les portes de leur usine. Pourquoi faire? Plus de profit. Ils travaillaient des travailleuses. 25 travailleuses sont restées piégées. Et sont brûlées vives. Peut-être que c'est la colère qui enflamme mes furoncles. Mais si vous restez assis toute une journée à écrire le cul sur une chaise avec des furoncles au cul, et me parlez pour des docteurs en savaient moins que moi. Pour moi, le râle, c'était mes furoncles. Je n'arrivais plus à dormir jusqu'à ce que je trouve encore même miracle. Non. L'eau, aussi simple que ça. Des linges trempés dans de l'eau chaude que je vis m'appliquer patiemment, heure après heure. La nuit, quand je criais et se levais pour m'appliquer ces linges chauds qui m'apaisaient. Parfois, quand elle n'était pas là, c'est les siennes qui faisaient. Oui. Là, à Londres, à vivre dans la pauvreté, quand tout à coup la mère de Jenny décida de nous envoyer quelqu'un pour nous aider avec les bébés. On avait mis nos meubles au Mont-de-Piété, mais tout à coup nous débarquait une domestique. C'est toujours comme ça quand vous vous mariez dans l'aristocratie. Vos beaux-parents ne vous envoient pas les sous que vous attendez désespérément, mais du linge fin, et des couverts en argent, et même une domestique. Ce qui finalement n'est pas une aussi mauvaise idée que ça, parce que la domestique peut prendre le linge fin et couvert en argent et les porter au Mont-de-Piété pour en revenir avec du liquide, ce que l'Enchen fit à de multiples reprises. Mais elle ne fut jamais une domestique. Les enfants l'adoraient. Jenny avait pour elle une affection immense. Et quand Jenny était malade, l'Enchen était toujours à son chevet, à ses côtés. Bien sûr. Sa présence créant entre Jenny et moi une certaine tension. Je me souviens d'une scène. Jenny m'a dit, je t'ai vu ce matin, regarder l'Enchen. Mais qu'est-ce que tu veux dire par regarder? Je veux dire à la manière dont un homme regarde une femme. Je ne comprends toujours pas ce que tu veux dire. Le genre de conversation qui n'amène jamais rien.
Bon.
C'était toujours comme ça, dans notre petit appartement donnant sur Dean Street. Et dehors, c'était le vaste Londres. Imaginez les rues de Londres en 1868. Les marchands de quatre saisons essayant de vendre leurs carottes contre quelques pences. Le remouleur et son singe, les prostituées, les cracheurs de feu, les magiciens, les camelots vociférants du cornet, les cloches, l'orme de barbarie, la fanfare, le violoneux, la cornemuse écossaise, et toujours une mendiante chantante de ballades irlandaises. C'est ce que je voyais et entendais tous les jours en rentrant du British Museum sous l'éclairage au gaz. Qu'on venait juste d'assez. Avant d'entrer dans Bill Street, et de patauger dans la boue et les eaux usées, en pensant aux soins qu'on mettait à paver les rues des quartiers riches. Bon. Je suppose qu'il était dans l'ordre naturel des choses que l'auteur de Das Kapital marche, se lâche dans la merde, se lâche. Pendant qu'il rédigeait sa condamnation du système capitaliste. Je n'étais pas du tout compatissant. Quand je me plaignais de marcher dans la boue au milieu de la rue, elle disait, c'est exactement ce que je ressens à la lecture de Das Kapital. Il a toujours été ma critique la plus féroce, impitoyable, honnête, diriez-vous. Y a-t-il quelque chose de plus infamant qu'une critique honnête? Le livre lui posait problème. Oui, Das Kapital. Et comme j'en ai le lecteur dès le début, avec ma théorie sur la marchandise, la valeur d'usage et la valeur d'échange, j'ai trouvé que le livre était trop long, trop détaillé. Il utilisait le mot pesant. Vous imaginez ? Il m'a rappelé ce qu'avait dit notre ami syndicaliste Peter Fox quand je lui avais offert le livre. Je suis un peu comme quelqu'un qui vient d'offrir un éléphant. Et pour Jenny, c'était un éléphant. J'essaie de m'expliquer que c'était autre chose que le manifeste communiste qui, lui, était destiné au grand public. Que c'était une analyse, mais que ce soit une analyse, très bien, mais alors qu'elle hurle comme le manifeste communiste. Un spectre entre l'Europe, le spectre du communisme, voilà qui va accrocher l'oreille du lecteur. Un spectre entre l'Europe. Immédiatement après, elle me lisait les premières pages de Das Kapital pour me torturer, bien sûr. La richesse des sociétés où prévaut le mode de production capitaliste se caractérise par une immense accumulation de marchandises. Je disais, ça va endormir le lecteur. Je vous demande, est-ce que si on est mieux que ça? Que ce soit un tout petit peu ennuyeux, je voulais bien le concéder à Jenny. Alors elle me répondait que ça n'existe pas. Quelque chose qui soit seulement un tout petit peu ennuyeux. Ne vous méprenez pas. Elle considérait Das Kapital comme une œuvre profonde. Le livre montrait comment l'apparition du système capitaliste était un nécessaire à un moment donné de l'histoire. Qu'elle a provoqué une croissance colossale des forces productives, un accroissement sans précédent des richesses dans le monde. Puis ensuite, comment, de par sa nature, il ne pouvait que répartir cette richesse de telle manière qu'elle détruise l'humanité, non seulement du prolétaire, mais aussi du capitaliste. Et que, toujours de par sa nature, elle finirait par creuser sa propre tombe pour ouvrir enfin la voie à un système plus humain. Je n'y demandais toujours. Touchons-nous ceux que nous voulons toucher. Une fois, elle m'a même dit, tu sais pourquoi les censeurs ont autorisé cette publication? Parce qu'ils n'y ont rien compris. Et qu'ils étaient sûrs que personne n'y comprendrait rien. Je lui ai rappelé que Das Kapital avait eu de bons comptes rendus. Elle m'a rappelé que la plupart de ses comptes rendus avaient été rédigés par Engels. Alors, je lui dis que j'ai critiqué autant mon travail. C'est peut-être parce qu'elle était tellement heureuse avec moi. Ah, vous, les hommes, disait-elle. Vous ne pouvez comprendre qu'admettre que votre travail mérite la critique. Alors, vous l'attribuez à quelque chose de personnel. Oui, bon, j'ai des sentiments personnels. Mais c'est autre chose. Personnel de génie. Je vais passer à ce moment par une période pénible. Je suppose que c'était de ma faute. Je ne parvenais pas à apaiser ses angoisses. Comment vous le faire comprendre? Jenny et moi, on était tombés amoureux l'un de l'autre. J'avais 17 ans et on avait 21. Elle était superbe. Les cheveux au beurre, les yeux noirs. D'autres besoin pour une autre, sa famille s'était prise de sympathie à mon égard. C'était des aristocrates. Les aristocrates sont toujours impressionnés par les intellectuels. J'avais, avec le père de Jenny, des discussions interminables sur la philosophie grecque. Je venais de terminer ma thèse de doctorat sur Démocrite et Épicure. Et je commençais seulement à m'apercevoir que jusqu'ici, les philosophes s'étaient contentés d'interpréter le monde alors qu'il s'agissait de le changer. Je suis parti à Paris. Jenny m'a suivi. Nous nous sommes mariés. Nous avons eu nos deux enfants. J'ai dit, je n'ai pas le droit. On vivait de rien. On trouvait les copains au café. Eux aussi vivaient de rien. Quelle équipe on faisait. Oh. Bakounine, l'énorme anarchiste hirsute. Engels, la terre raffinée. Heine, le poète vertueux. Stirner, complètement dévoté. Et Proudhon, qui gueulait « La propriété, c'est le vol !»
Mais qui en réclamait sa part.
Être pauvre au Paris, c'est une chose. L'être à Londres en est une autre. Nous avons traversé la Manche avec nos deux enfants, Jenny Chen et Laura. Et bientôt, Jenny fait enceinte du troisième. Parfois, j'ai l'impression qu'elle me reprochait de devoir élever nos enfants dans ce petit appartement glacial et humide, où il y avait toujours quelqu'un de malade. Jenny a chopé la petite vérole. Elle en avait échappé. Nous en avons gardé des séquelles au visage. Qu'est-ce que lui dire qu'elle était toujours aussi belle? Ça ne suffisait pas. J'aurais aimé que vous puissiez connaître Jenny. Ce qu'elle a fait pour moi est inestimable. Et en plus, elle a accepté le fait que jamais je ne puisse avoir tout simplement un travail comme les autres. Ah, j'ai bien essayé pourtant une fois. J'ai posé ma candidature au chemin de fer. Ils m'ont répondu comme suit. Docteur Marx, nous sommes très honorés de votre demande d'emploi dans nos services. Nous n'avons jamais eu de docteur en philosophie parmi nos employés de bureau. Mais le poste exigeant une écriture lisible, nous sommes au regret de devoir décliner votre offre. J'ai dit, croyez dans mes idées. Mais elle ne supportait pas ce qu'elle considérait comme de la prétention académique. Redescends sur Terre, or docteur Marx. Elle voulait que j'explique la théorie de la valeur ajoutée de telle manière que les ouvriers puissent la comprendre. Mais personne ne peut comprendre la théorie de la valeur ajoutée s'il n'a pas d'abord compris la théorie de la valeur travail. Et comment la force du travail est une marchandise particulière dont la valeur est déterminée par le coût des moyens de subsistance. Il est lui-même à la source de la valeur de toutes les autres marchandises. Marchandises qui sont toujours dont la valeur est toujours supérieure à la valeur de la force du travail.
Elle hochait la tête. Non. Ça ne marchera pas.
Tout ce que tu vas dire, c'est votre patron vous donne un salaire, le strict minimum, juste de quoi survivre et travailler. Mais toujours, il gagne sur votre travail bien plus qu'il ne vous le paie. Ainsi devient-il de plus en plus riche pendant que vous restez pauvre. Admettons que parmi 100 personnes dans toute l'histoire de l'humanité, vous avez compris ma théorie de la plus-value. Vous en êtes au moins exact. Pas plus tard que la semaine dernière, un rapport du département d'État américain au travail, tout y est. Vos travailleurs produisent de plus en plus de biens et sont payés de moins en moins cher. Résultat, exactement ce que j'avais dit. Désormais, 1% des Américains les plus riches contrôlent 40% de la richesse du pays. Et ça se passe dans le grand pays, qui est le grand modèle du système capitaliste. Un pays qui non seulement a défroncé son propre peuple, mais qui a pu s'appuyer les richesses du reste du monde. Chini, essaie toujours de simplifier des choses qui par nature sont complexes. Elle m'accusait d'être d'abord un érudit avant d'être un révolutionnaire. Oublie des lecteurs intellectuels adressés aux ouvriers. Elle m'accusait d'arrogance et d'intolérance. Pourquoi t'adresses-tu aux autres révolutionnaires avec davantage de violence que tu ne t'adresses à la bourgeoisie? Proudhon, par exemple, souhaitait, ne voulait pas admettre que nous devions remercier le capitalisme d'avoir développé des industries gigantesques dont il nous fallait aujourd'hui prendre le contrôle. Vouloir revenir à une société plus simple. Quand il a écrit son livre Philosophie de la misère, je me conduis par mon propre livre Misère de la philosophie. Ah ah, vous trouvez ça malin. Le livre, vous voyez que c'était insulte. Mon compte, Jenny a toujours été bien meilleur que ce que je n'ai jamais été. Elle m'encouragea à cesser de tergiverser.
et à m'impliquer dans la cause des travailleurs londoniens. Elle m'accompagna quand je fus invité à prendre la parole à la première assemblée de l'Association internationale des travailleurs. C'était à l'automne 1864. Dans Martin's Hall, salle comble, entassée, 2000 personnes. Les travailleurs de tous les pays doivent s'unir contre les politiques étrangères qui sont criminelles, qui jouent avec les préjugés nationaux, qui dilapident dans des guerres le sang des peuples et les richesses du monde. Nous devons, sans souci, nous associer pour faire respecter et triompher la simple loi de la morale et de la justice dans les affaires internationales. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous! Génie, adorez ça. Laissez s'occuper de la maison. Avec l'eau coupée, avec le gaz coupé. Mais jamais elle ne se lassait de la question d'émancipation de la femme. Elle disait que la vitalité des femmes avait beaucoup souffert de leur cantonnement à la maison, à raccommoder des chaussettes et à cuisiner. Aussi, elle ne voulait pas y rester. Elle m'accusait d'être théoriquement pour l'émancipation de la femme, mais en pratique, complètement ignorant de leurs problèmes. Elle disait, Engels et toi, vous écrivez beaucoup sur la liberté des sexes et l'égalité des sexes. Mais vous ne la pratiquez guère. Bon, je ne ferai aucun commentaire à ce sujet. J'ai dit elle aussi, militait pour la cause irlandaise. Et quand la reine Victoria déclara, les Irlandais sont vraiment un peuple barbare qui n'a rien de commun avec les autres nations civilisées, elle écrivit aux journaux londoniens, l'Angleterre, qui fait pendre deux jeunes rebelles irlandais qui ne faisaient rien d'autre que demander la liberté pour leur pays. L'Angleterre est-elle une nation civilisée?
Jenny et moi,
nous étions follement amoureux l'un de l'autre. Comment vous le faire comprendre?
Malheureusement, nous avons vécu des moments pénibles.
L'amour résistait. À partir d'un moment, tout a changé. Je ne sais pas pourquoi. Je lui disais que c'était parce qu'il n'était plus la grande beauté à qui j'avais fait la cour. Ce qui me mettait en colère! Alors elle disait que c'était à cause de l'Enchel, ce qui me mettait encore plus en colère! Alors elle disait que je m'énervais, parce que c'était vrai, ce qui me rendait furieux!
Ces imbéciles! Quoi c'est un système mené par une brute qui fait assassiner ses compagnons de révolution? Soit le communisme, tel le bon!
Qui sont les journalistes, les hommes politiques qui racontent tout le temps du salade?
Ont-ils seulement lu le manifeste que Engels et moi nous écrivions quand il avait 28 ans et moi 30?
En lieu et place de l'ancienne société bourgeoise, avec ses classes, et ces antagonismes de classe, nous devons réaliser une association où le libre développement de chacun sera la condition du libre développement de tous.
Vous entendez ça?
Une association.
Vous savez maintenant ce que c'est que le communisme?
La liberté individuelle.
Chaque individu devient un être humain rempli d'altruisme. Pensez-vous que quelqu'un qui se prétend, qui se dit socialiste ou communiste, mais qui se comporte comme un gangster, ait compris quoi que ce soit au communisme? Abattre tous ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. Est-il pensable que ce soit ça, le
communisme pour lequel j'ai donné ma vie. C'est quoi? C'est à travers une voix impossible. Et qui a tout fait pour interpréter mes pensées comme un fanatique religieux? A-t-il seulement permis à ses concitoyens de lire la lettre que j'ai écrite au New York Times, alors qu'il collait ses anciens compagnons de révolution au poteau, et dans laquelle je disais que la peine de mort ne saurait être justifiée sous aucun prétexte dans aucune nation se disant civilisée? Le socialisme n'est pas censé reproduire les fautes du capitalisme. Qui les remplit? Les pauvres. Mais bon, d'accord, certains ont commis des crimes terribles, des crimes violents. Mais la plupart, ce sont des voleurs, des cambrioleurs, des escrocs, des revendeurs de drogue. Tous des adeptes du système de la libre entreprise. Ils font ce que font les capitalistes, mais à une plus petite échelle. Avec Voskengels et moi, nous avons écrit sur les prisons. Au lieu de punir les individus pour leurs crimes, on ferait mieux d'éliminer les conditions sociales qui engendrent les crimes. De fournir à chacun tout ce dont il a besoin dans une société pour y développer sa propre vie. Ouais, nous avons parlé de dictature du prolétariat. Mais nous n'avons jamais parlé de dictature du parti, ni de dictature du comité central, ni de dictature nationale. Nous avons parlé de la dictature provisoire de la classe ouvrière. Le peuple, contre la direction d'État, il gouvernerait dans l'intérêt de tous, jusqu'à ce que l'État devienne inutile et disparaisse peu à peu. Bien sûr, il n'était pas d'accord. Il disait qu'un État, un État ouvrier qui dispose de l'armée, de la prison et de la police, se deviendra toujours un État tyrannique. Bakounine adorait se disputer avec moi. Vous avez entendu parler de Bakounine, l'anarchiste? Si un écrivain devait inventer un personnage comme celui-là aujourd'hui, on dirait qu'il est au-delà de la réalité. Dire que Bakounine et moi, nous ne nous entendions pas, ce serait un euphémisme. Mais écoutez ce qu'elle racontait sur Engels et moi pendant que j'étais en train de rédiger le manifeste à Bruxelles. Marx et Engels, mais spécialement Marx, sont d'indécrottables bourgeois. Nous, d'indécrottables bourgeois. Pas bah, forcément. Comparé à Bakounine, tout le monde était un bourgeois. Parce que Bakounine avait choisi de vivre comme un pauvre. Et si vous viviez pas comme un pauvre, si vous aviez un toit au-dessus de votre tête, si vous aviez un piano dans votre salon, et si vous aviez le fromage et le bon vin, alors vous étiez un indécrottable bourgeois. Bon, je reconnais au bonhomme un immense courage. Il était impressionné, il était excité en Sibérie, il s'est évadé, il a parcouru le monde pour fomenter partout la révolution. Bakounine voulait une société anarchiste. Mais la seule anarchie qu'il a jamais réussi à implanter, c'est dans sa tête. Il essaie de sauver une révolution, une insurrection une fois à Bologne. Il a presque réussi à se tuer avec son propre revolver. Partout. Partout, ces tentatives révolutionnaires ont été un échec. Mais comme un amant qui va d'échec amoureux en échec amoureux, il persévérait encore et encore. Faites la vie de votre vie. Le crâne chauve qui couvrait d'une petite casquette grise, la barbe énorme, hirsute, l'air féroce, l'air plein de dents. Le scorbut, résultat du régime carcéral. Il semblait ne pas vivre dans ce monde, mais dans un monde qu'il avait imaginé. Il épuisait l'argent. Quand il en avait, il le distribuait. Et quand il n'en avait pas, il vous l'emboîtait, sans avoir aucunement l'intention de vous rendre. Il n'y a pas de maison. Ou plutôt si, le monde entier était sa maison. Il arrivait chez un camarade et il disait « Mais voilà, où est-ce que je dors? Quand est-ce qu'on mange ?» Et en moins d'une heure, il était plus chez lui que ses hôtes. Il y a eu cette fois. à Londres. Vous étiez en train de dîner tranquillement. Quand tout à coup, ma cousine est entrée en trompe. Ah,
pourquoi donner la peine de sonner, hein?
C'était son habitude d'arriver à l'heure du dîner. Cette fois-là, nous avons été surpris. Nous pensions qu'il était en Italie. Parce que chaque fois qu'on entendait parler de lui, il était toujours à l'étranger en train de fomenter une révolution. Bon. Il a presque sorti la porte de ses gonds. Et il a lancé. Bonsoir, camarade!
Et sans attendre la réponse, il s'est installé à table. Il a commencé à dévorer
la viande et les saucisses par bon morceau, en s'empiffrant de fromage et en buvant du brandy, mer après mer. Oh, et c'est le vin. Le vin, on en a. Le brandy, c'est trop cher. Alors, il a aspiré une gorgée de vin qu'il a craché aussitôt.
Ah! Totalement insipide! Il n'y a que le brandy pour voir clair.
Et immédiatement après, il a repris son cirque habituel, prêchant, tenu de muant, gueulant, exhortant.
J'étais furieux!
Mais c'est Jean qui est intervenu. Michael Darrett, tu nous pompes l'air? Il s'est contenté d'éclater de rire, et il a continué! La tête de Bakounine était pleine de foutaises anarchistes. Du romantisme politique, du non-sens utopique. Moi, je voulais l'exclure de la Première Internationale, mais je n'ai trouvé ça ridicule. Pourquoi toute organisation révolutionnaire qui dépasse 6 membres doit-elle toujours menacer l'un d'eux d'exclusion? Parce que Bakounine était cherché par toutes les polices de tous les pays d'Europe. Il avait ça en déguisement. La folle est arrivée chez nous à Londres. Il était déguisé en curé. Finalement, il pensait comme un curé. Il était complètement ridicule.
Ouais, il s'est installé pour une semaine. Et une fois, nous avons passé la nuit à boire et à discuter. À boire encore et encore. Jusqu'à ce que ni l'un ni l'autre ne puissions plus marcher. En réalité, on était endormi au milieu d'une société oraison. Alors, il m'a remué jusqu'à ce que je me réveille en lui hurlant. Je n'ai pas fini.
Heureusement, les Français l'avaient bien compris, ils avaient un adage. Le premier jour de la Révolution, Bakounine, c'est un trésor. Le deuxième, il faut l'abattre.
Vous avez déjà entendu parler de cet épisode merveilleux de l'histoire de l'humanité, la Commune de Paris?
C'est une histoire qui a commencé bêtement. Hein. Je veux parler de Napoléon III, le neveu de Napoléon Bonaparte. C'est un histrion, un bouffon qui souriait à la foule pendant que 16 millions de paysans croupissaient dans des taudis sordides et leurs enfants mouraient de faim. Mais parce qu'il avait maintenu le corps législatif et parce que les gens pouvaient continuer à aller voter, on était supposé vivre en démocratie.
Une erreur. Je réponds.
Napoléon III voulait aussi la gloire et il a commis l'erreur de s'attaquer aux armées de Bismarck. Il était vite défait et les troupes allemandes sont entrées dans Paris, où elles furent accueillies par quelque chose de plus dévastateur que les fusils. Le silence. Elles trouvèrent les statues de Paris drapées de noir, une résistance invincible, invisible, muette. Alors elles ont fait ce qu'elles avaient mieux à faire. Elles ont rapidement défilé sur l'Arc de Triomphe, et elles s'en sont retournées aussi sec. Retour du bon vieux système à la française. La République! Retour des libéraux, comme ils s'appelaient eux-mêmes. Mais ils n'ont pas osé entrer dans Paris. Ils tremblaient de peur. Parce que les Allemands partis
Paris était aux mains des ouvriers, des bonnes, des employés de bureau, des intellectuels, des citoyens, en armes.
Le peuple de Paris ne forma pas de gouvernement. Il fit quelque chose de bien plus glorieux. Quelque chose que tous les gouvernements au monde redoutent.
Une commune.
L'énergie collective du peuple.
C'est ça, la commune de Paris.
Les gens se réunissaient, 24 heures sur 24, aux quatre coins de la ville. Par groupe de 3 ou 4, ils prenaient les décisions. Pendant que les troupes françaises encerclaient la ville et menaçaient de l'envahir à tout moment.
Paris devint la première ville libre au monde. La première enclave de liberté dans un monde de tyrannie.
J'essaie d'expliquer à Bakounine. Tu veux savoir ce que j'entends par la dictature du prolétariat? Regarde, la commune de Paris, c'est ça la vraie démocratie. Pas comme ces démocraties à l'anglaise ou à l'américaine, où les gens ne votent jamais que pour des gardiens de l'ordre établi, et où quel que soit celui qui gagne les élections, ce sont toujours les riches qui continuent à diriger le pays.
La commune de Paris, elle, ne dura que quelques mois. Mais elle fut la première assemblée législative au monde à représenter les pauvres.
Ces lois étaient faites pour eux. Elle annula leurs dettes, elle ajourna leur loyer. Elle obligea le monde piété à leur restituer les biens dont ils avaient le plus besoin.
Ses membres refusèrent un salaire qui soit supérieur à celui des ouvriers.
Ils réduisirent les horaires des boulangers. Ils réfléchirent aux moyens de rendre les théâtres gratuits.
Courbet,
le grand Courbet lui-même, ce peintre dont les tableaux avaient stupéfié l'Europe tout entière, présidait la commission des artistes.
Ils ont ouvert les musées.
Ils ont mis sur pied une commission pour l'éducation des femmes. Ça, c'était un événement sans précédent. L'éducation pour les femmes.
Ils mirent à profit les dernières découvertes scientifiques.
Par exemple, ils survolèrent en montgolfière les alentours de Paris pour distribuer un tract à l'attention des paysans, un tract avec un message simple et puissant, un message qui devrait être adressé aux prolétaires du monde entier.
Nous avons les mêmes intérêts. La commune assigna pour tâche à l'école d'enseigner aux enfants l'amour et le respect de leurs semblables.
Je lis vos derniers rapports sur l'éducation. Quel non-sens! Vous enseignez tout ce qui est nécessaire pour réussir dans une société capitaliste.
Mais apprenez-vous aux jeunes à se battre pour la justice. Communard l'avait bien compris.
Et ils le faisaient, non seulement par leurs paroles, mais aussi par leurs actes. Ils ont détruit la guillotine, cet outil de la torture, de la tyrannie, y compris de la tyrannie révolutionnaire.
Oui. Les épaules couvertes d'écharpes rouges, brandissant d'une immense bannière rouge, les bâtiments drapés de soie rouge. Ils se sont rassemblés sur la place Vendôme, au pied de cette immense statue, elle-même surmontée d'une statue en bronze à l'effigie de Napoléon Bonaparte. Un trépan, 2 tours du cabestan, et la statue s'effondra sur le sol.
Des gens escaladèrent les gravats.
Désormais, le drapeau rouge flottait sur ce piédestal, un piédestal qui n'était plus celui d'une nation, mais celui du genre humain tout entier. Le contemplant, hommes et femmes pleuraient de joie. C'était ça, la commune de Paris. Les rues toujours pleines de monde. Des gens qui souriaient, qui partageaient leurs biens, qui discutaient 24 heures sur 24. Ils étaient heureux. La gentillesse régnait. Les rues étaient sûres. Sans aucune police d'aucune sorte. Voilà. C'est ça, le socialisme.
Forcément, cet exemple, l'exemple de la commune de Paris ne pouvait être toléré. Alors, les troupes françaises sont entrées dans Paris. Et leur cercle a commencé. Elles ont arrêté les meneurs de la commune, ils ont conduit au fond au Père-Lachaise, les ont collés au mur et les ont exécutés. En tout, il y a eu plus de 30 000 victimes.
Oui.
La commune de Paris a été écrasée par des chacals, par des ponceaux. Mais c'est la plus éclatante réalisation de notre époque.
On a vu. Et on s'est disputé. On a vu encore plus, on s'est disputé.
plus. Je lui ai dit, Mikhaïl, tu ne comprends rien au concept de l'État prolétarien. On ne va pas s'affranchir du passé par la grâce d'un coït orgasmique. Nous allons devoir bâtir une nouvelle société sur les vestiges de l'ordre ancien. Ça, ça prend du temps. Non ! Une fois l'ordre ancien battu, le peuple vivra immédiatement dans la liberté ou la perdra ! Je suis lancé, Mikhaïl, tu es trop bête pour comprendre. Un petit feu sur des feuilles, il a rétorqué. Et toi, Marx, tu es un arrogant fils de pute, comme toujours. Parce que tu crois que les ouvriers, ils vont faire la révolution sous la base de ta science. Ils n'en ont rien à foutre de ta science. Leur colère augmentera et ils lasseront la révolution sans ta pseudo-science. L'instinct révolutionnaire, ils l'ont. Dans les tripes.
Il était surexcité.
Je crache sur tes théories, toi.
Il l'a fait.
Le porc crachait sur mon parquet. Mikhaïl, là, il avait passé les doigts. Mikhaïl, tu peux cracher sur mes théories, mais pas sur mon parquet. Je vais nettoyer ça tout de suite. Ah. Et voilà, Marx, j'ai toujours su que tu n'étais qu'un tyran. Et moi, Bakounine, j'ai toujours su que tu n'étais qu'un ennemi. On aurait dit un animal préhistorique. Il m'a bondi dessus, vous imaginez le colosse? On a roulé par terre, on s'est battu.
Heureusement, on était trop sourd pour vraiment se faire mal. Et au bout de quelques minutes, on était tellement fatigués qu'on est resté là, couché l'un contre l'autre, pour essayer de reprendre notre souffle. Ensuite, la colline s'est relevée. On aurait dit un hippopotame sortant de la rivière. Il s'est déboutonné. Il s'est mis à pisser. Par la fenêtre. J'en croyais pas mes yeux.
Mais Mikhaïl, qu'est-ce que tu fous là? Mais qu'est-ce que tu crois? Je suis en train de pisser par la fenêtre.
Mais Mikhaïl, c'est dégueulasse.
Non! Je pisse sur l'ordre, je pisse sur tout l'Empire britannique.
Mais non, Mikhaïl, tu pisses sur mon trottoir. Il n'a rien répondu. Il s'est reparlété, il s'est couché par terre et il a commencé à gonfler. Alors, moi aussi, je suis couché par terre, j'ai vite sombré. Il nous a retrouvés là des heures plus tard, couchés l'un près de l'autre, quand elle s'est levée au matin. Non. Non. La commune de Paris ne pouvait pas être tolérée. C'était un trop bel exemple, c'était trop dangereux. Un trop bel exemple pour le reste du monde. Alors, ils l'ont noyé dans le sang. Mais ça arrive encore parfois, n'est-ce pas? Comme dans un quelconque coin du monde, les gens se révoltent et quand l'ordre ancien est abattu et que les gens commencent à expérimenter de nouvelles manières de se rencontrer, des gens vierges de toute idéologie, qui ne s'indignent simplement des conditions d'existence, ça ils ne peuvent pas supporter. Alors ils se remettent à l'ouvrage. Et quand je dis ils, vous savez à qui je pense. Parfois, secrètement, sournoisement, parfois brutalement, violemment, pour éradiquer tout cela. Ainsi, il continue de dire que le capitalisme a triomphé. De quoi ? Le marché grimpe jusqu'au ciel, triomphé. Parce que les actionnaires sont encore plus riches qu'avant. Triomphé. Alors que 25% des enfants américains vivent dans la pauvreté et que 40 000 d'entre eux meurent chaque année avant leur premier anniversaire. À New York, 100 000 personnes
On fait la file bien avant l'aube pour une offre de 2000 emplois.
Qu'est-ce qui va arriver aux 90 000 qui ne seront pas pris? C'est pour eux que vous construisez une nouvelle prison?
Ouais. J'avais réalisé les miracles de technologie. Vous avez même envoyé des hommes dans la stratosphère.
Mais que se passe-t-il avec ceux que vous laissez sur la Terre? Pourquoi deviennent-ils tous aussi terrorisés? Pourquoi se tournent-ils vers la drogue, vers l'alcool? Pourquoi deviennent-ils fous furieux? Se transforment-ils en tueurs?
Et on s'est écrit dans vos gazettes!
Et vos politiciens qui sont bouffis d'orgueil? Ils fanfaronnent. Désormais, le monde va avancer vers le système de la libre entreprise.
Mais ne lisent-ils pas l'histoire? Ne connaissent-ils pas l'histoire du système de la libre entreprise? Quand les gouvernements faisaient tout pour les riches et rien pour les pauvres? Quand le gouvernement américain donnait 5 millions d'hectares de terre libre aux chemins de fer? Mais tournez la tête! Quand, sur ces chemins de fer, des ouvriers, immigrés, irlandais ou chinois venaient travailler 20 heures sur 24, courant, de froid ou de chaud. Et que ces travailleurs se sont révoltés, ils se sont mis en grève. Alors ce même gouvernement leur a envoyé l'armée pour les soumettre par la force.
Nom de Dieu! Pourquoi croyez-vous que j'ai écrit Das Kapital? C'était parce que je voyais les méfaits du système capitaliste, les méfaits du système de la libre entreprise.
En Angleterre, les petits-enfants qu'on mettait au travail dans les filatures, parce que leurs petits doigts pouvaient manipuler les fuseaux.
Dans Massachusetts, des jeunes filles qui allaient travailler dans les minoteries, à l'âge de 10 ans, étaient en Morel, à 26. Des villes qui faisaient un plein de misère et de vice. C'est ça, le capitalisme, hier, comme aujourd'hui. J'ai vu vos lumineuses publicités dans vos magazines. Sur vos écrans. Tant d'images pour tant d'écrans. Vous envoyez des choses et vous en savez si peu.
Mais plus personne ne lit l'histoire! Mais bordel de merde, qu'est-ce qu'on enseigne dans nos écoles par les temps qui courent?
Le vie s'éteint peu à peu, triste, et malade sur la faim.
Mais je suis sûr qu'elle se souvenait de nos années de bonheur, de nos moments de ravissement à Paris.
Et des enfants qui meurent faute de nourriture, bien évidemment.
En Afrique, en Europe, en Palestine, un peuple en assassine un autre par-dessus les frontières. Mais merde, vous n'avez pas entendu ce que j'ai fait il y a 150 ans? Effacer cette frontière ridicule! Plus de passeport, plus de visa, plus de quotas d'immigration, plus de gardes-frontières, plus de drapeaux! Plus de serment d'allégeance à ces entités artificielles que sont les nations, prolétaires de tous les pays, unissez.
Cet homme me tue.
probablement sous-estimé la capacité du capitalisme à se survivre.
J'ai pas imaginé qu'il pouvait exister un médicament pour maintenir en vie un système malade. Des guerres pour soutenir l'industrie. Pour rendre les gens tellement fous de patriotisme qu'ils ont vu leur misère. Des fanatiques religieux pour annoncer aux masses le retour de Jésus.
Venez, Jésus ! Il est pas prêt de revenir !
Je suis trompé en 1838 quand j'annonçais le déclin du capitalisme. Mes calculs étaient un peu en avance. Disons que 200 ans, tout va se transformer. Tous les systèmes actuels vont changer. Les gens ne sont pas idiots. N'est-ce pas le président américain Lincoln qui disait on ne peut pas tromper tout le monde tout le temps? Le bon sens. La soif de justice et de respect vont rassembler les gens.
Mais ne manquez pas! C'est déjà arrivé! Et ça peut se reproduire! Mais à une plus grande échelle!
Et alors ceux qui détiennent le pouvoir, et ceux qui détiennent les forces armées, n'y pourront rien! Leurs serviteurs refuseront de servir, leurs soldats désobéiront! Vous avez réalisé des miracles inégalés dans l'histoire de l'humanité, des prodiges de science et de technologie, mais le capitalisme creuse sa propre tombe.
Son insatiable appétit de profit, encore, 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 engendre un monde de chaos. Dans son temps, l'art, la musique, la poésie, la beauté elle-même en marchandise à vendre, les êtres humains en marchandise, et pas seulement travailleurs à la chaîne, aussi scientifiques. Le poète, le juriste, l'artiste, tous obligés de se vendre pour survivre. Et que fera-t-il quand tous ces gens se rendront compte qu'ils sont tous des travailleurs, qu'ils ont un même ennemi commun? Ils s'uniront. Pour se réaliser pleinement. Et ça, pas seulement dans leur pays respectif. Parce que le capitalisme a besoin d'être mondial. Son slogan, c'est le marché libre. Parce qu'il a besoin de pouvoir circuler sur toute la surface du globe pour faire du profit, encore et encore plus de profit. Mais en faisant cela, il crée involontairement une culture mondiale. Désormais, les gens franchissent les frontières comme jamais auparavant dans l'histoire de l'humanité. Les idées traversent les frontières. Forcément, de tout cela, il doit bien naître quelque chose de nouveau.
Quand j'étais à Paris, j'étais en 1943. J'avais 25 ans. Et j'écrivais que dans le nouveau système industriel, les travailleurs sont étrangers à leur travail parce qu'ils leur détestent. Qu'ils sont devenus étrangers à la nature à mesure que les machines, la fumée, les odeurs, les bruits leur ont envahi l'esprit. C'est ça. Qu'ils sont étrangers les uns aux autres parce qu'on les a montés les uns contre les autres, se marchant dessus pour survivre. Ils sont étrangers à eux-mêmes, vivant des vies qui ne sont pas les leurs. Vivant des vies qui ne veulent pas vraiment vivre, de telle sorte que la vraie vie ne leur soit accessible qu'en rêve ou en fantasme. Mais rien de tout cela n'est inévitable. Il y a toujours une possibilité de choix. Ce n'est qu'une possibilité, je l'admets. C'est certain. C'est clair maintenant. J'ai été foutrement trop sûr de moi. Mais maintenant, je sais. Tout peut arriver. Mais il faut que les gens se bougent le cul. Ah, c'est trop radical ce que je dis. Mais rappelez-vous, la radicalité, c'est rien d'autre que d'emporter les problèmes à la racine. Et la racine.
Imaginez que vous avez les sourds.
Et de rester assis toute une journée sur une chaise vous cause une telle douleur que vous deviez vous lever.
Mais vous devez bouger. Vous devez agir.
Ne parlons plus de capitalisme. Ne parlons plus de socialisme. Simplement de l'utilisation par les êtres humains de toutes les richesses formidables que la Terre peut nous offrir. Hein? Pour occuper à chacun de ce dont il a besoin. De la nourriture, des médicaments, de l'air pur, de l'eau pure, des arbres, de l'herbe, une maison où il fait bon vivre, quelques heures de travail. Vous ne me demandez pas qui mérite cela. Chaque être humain le mérite. Ouais, bon, d'accord. Ça va être l'heure d'y aller. Ouais, ok, ça va. Vous avez été dérangé par mon retour? Ah, vous êtes agacé? Oh, bah dites-vous que... C'était le Messie qui était revenu, hein? Jésus, il ne pouvait pas. Alors c'est Karl qui est revenu. Il y a quelqu'un. Merci à vous d'être venu. Ainsi donc, de ces imbéciles qui proclament Marx est mort n'ont pas réussi à vous dissuader. Ah, certes, je suis